Voici la main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Bonjour. Jusqu'à preuve du contraire, les plantes n'ont pas d'oreilles.
C'est un avantage, elles ne pourront donc jamais être dures de la feuille.
Pas mal.
Je suis assez content de moi.
Oui, elle est pas mal.
Alors, à défaut d'avoir des oreilles, les plantes peuvent toutefois avoir leur apparence, à en croire les botanistes, si je me réfère à quelques noms comme l'oreille d'ours, qui désigne une variété de prime vert, ou une vivace appelée Stachys byzantina. Attention à ne pas confondre oreille d'ours avec aille des ours, rien à voir.
Il existe une fleur qu'on appelle oreille de souris.
Et vous la connaissez bien, il s'agit du myosotis dont le nom vient du grec mus qui signifie souris et de otos qui signifie oreille. Oreille de souris désigne aussi la piloselle, un végétal de la même famille que les astères, également appelé oreille de rat, sachant que celle-ci, oreille de rat, est dans certains cantons du Jura l'autre nom de la mâche et que la mâche est aussi désignée oreille de lièvre, mais dans le département de l'Orne. J'espère que vous me suivez.
Alors je résume, oreille de cochon, oreille de loup, oreille de lapin, oreille de chèvre, à quoi ressemblent ces plantes?
Eh bien il faut justement être précis, l'oreille de cochon est une jolie plante qui pousse le long de la côte et les botanistes l'ont appelée astère. Maritime. L'oreille de loup est une bisannuelle, c'est la molène bouillon blanc très appréciée pour ses vertus médicinales, au même titre d'ailleurs que la consoude, qui s'appelle ainsi pour ses facultés à réparer les fractures. Ah oui, consoude, c'est assez amusant. La consoude, sachez-le, est aussi désignée oreille d'âne. Reste enfin l'oreille de lapin, qui représente tantôt un iris, l'iris laevigata, tantôt une variété de cactus.
Vous étiez sobre quand vous avez écrit cette chronique.
Ah, très bien, oui, très bien. Mais quand on lit, on arrive à s'y retrouver, je vous rassure. Mais je ne lâche pas le texte
Une chronique écrite à l'apéro.
Déjà, mais il faudra la réécouter. C'est une chronique qu'on écoute en prenant son temps. Et alors donc, je disais que l'oreille de lapin parle aussi de la Stachys lanata, à ne pas confondre avec la Stachys byzantina, que j'ai déjà citée, et qui est l'oreille d'ours. L'oreille de chèvre, enfin, est une centaurée, une fleur qui ressemble au bleuet.
Oui, et bientôt, vous allez nous dire qu'il existe aussi des oreilles d'éléphant.
Eh oui, la variété africaine est d'ailleurs plus grande que celle d'Asie.
Ouais, vous faites marcher, là.
Oui, là, oui, tout à fait, mais uniquement pour la grandeur. L'oreille d'éléphant existe vraiment, et c'est l'alocasie avec ses feuilles géantes. C'est une plante originaire d'Asie du Sud-Est.
Allons-y, pour une plante, oreille d'homme, ça existe?
Eh bien, elle existe aussi, elle tapisse les sous-bois, et ses feuilles ressemblent effectivement à des petites oreilles. J'aurais tendance à penser qu'elles ressemblent plutôt à des petits cœurs, mais il est vrai que les botanistes parfois donnent de curieux noms. J'aurais pu parler de quantité d'autres parties du corps humain, parce que il y a quantité de plantes, gueule de loup par exemple, et le queue de renard, etc. C'est assez drôle.
On est sur les oreilles. Alain Baraton, pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles donc.
Ah, c'est joli.
Vos questions et vos réponses.
C'est un slogan de France Inter.
Oui, mais je sais.
Vos réponses et vos conseils aux auditeurs, auditrices de France Inter. Une question d'abord de Bénédicte de Bois-le-Roi, à propos de la canicule qui va arriver la semaine prochaine et dans les prochains jours. Faut-il arroser les plantes avec de l'eau très froide?
Alors déjà, je vais en profiter pour détruire un petit peu une idée reçue. On entend, on lit encore, ça et là, que arroser sous le soleil fait griller le végétal. Faux. La plante ne grille pas pour une raison simple. Il est évident que s'il y a une petite pellicule d'eau sur la feuille, avant qu'il y ait un effet de loupe, eh bien la température et la chaleur auront fait que l'eau se sera évaporée. Donc c'est faux. Mais attention, la plante, je rappelle, est un être vivant. Et la plante, lorsqu'il y a du soleil, eh bien, va fermer ses stomates. Les stomates...
Donc ce sont pas l'arroser.
Voilà, vous allez comprendre. Ce sont des petites ouvertures sur les feuilles qui permettent à la plante, tout simplement, de respirer et d'évacuer vers l'atmosphère, eh bien, l'excès en eau. Quand il y a du soleil, la plante ferme les stomates pour se prémunir de la canicule. Si vous arrosez, vous lancez au végétal un signal contraire. Et vous provoquez un stress. Et un stress, c'est quoi? C'est la porte ouverte à toutes les maladies. Mmh. Alors, pour répondre directement à votre question, oui, arroser une plante avec de l'eau froide, sauf lorsque c'est un végétal du jardin, c'est pas très grave. Le temps que l'eau descende en profondeur, elle a eu le temps de prendre la température de la terre. Mais effectivement, chez soi, une plante en pot avec de l'eau froide, là encore, on peut déclencher un stress, et un stress n'est pas bon pour la plante.
Pas trop froid.
Elle risque d'avoir des soucis.
Mais sinon, de toute façon, il vaut mieux arroser ou très tôt le matin, ou quand la nuit est tombée.
Alors moi, j'ai tendance à préférer l'arrosage de la veille au soir, parce que j'estime que l'eau a largement le temps de descendre en profondeur avant que l'effet de chaleur ne fasse évaporer la terre, ce qui veut dire qu'en arrosant le soir, l'eau descend bien en profondeur, se met bien au niveau des racines, et sitôt la plante est-elle réveillée le matin qu'elle peut absorber, donc je privilégie effectivement l'arrosage le soir, si on ne peut pas, tôt le matin, mais surtout pas quand en plein soleil.
Question de Claude. Quelle différence entre marcottage et bouturage?
Le bouturage est une technique de multiplication du végétal en prélevant une partie du végétal. On coupe une feuille, une racine, un bourgeon, on le met dans la terre. Il va y avoir création de racines. Donc, un nouveau végétal va naître à partir d'un fragment qui s'est enraciné. Le marcottage, c'est une partie aérienne ou souterraine que l'on enracine volontairement pour qu'au niveau de cet enracinement, il y ait production de radicelles et donc création d'un nouveau végétal. J'en profite pour rappeler que le marcottage peut être aérien. On peut mettre parfois des incisions sur des caoutchoucs, sur les branches, on met de la terre dans des pochons, c'est du marcottage. Donc le marcottage, c'est ne pas couper le végétal, mais favoriser l'enracinement du parti du végétal quand il est encore lié au pied-mère.
Quelques secondes pour la question de Jessie, qui a un olivier à Paris qui se trouve à l'extérieur. Or, depuis quelques semaines, il y a comme du coton dessus. Est-ce que ce sont des œufs et comment les traiter, demande Jessie.
C'est de la cochenille farineuse. La cochenille farineuse produit justement cette petite poudre blanche. Effectivement, j'expliquerai à l'occasion comment traiter les cochenilles, mais c'est pas simple. Et puis, on part bientôt en vacances, comme vous le savez. J'ai trouvé un petit guide qui devrait en intéresser beaucoup. Découvrir la flore des Pyrénées. C'est intelligent, vous partez avec ce bouquin sous les bras. 400 espèces dans leur milieu d'origine.
Sous les bras, même un seul, ça suffit.
Oui, mais non, tout à fait. Mais oui, mais ça dépend, parce qu'on peut parfois avoir des problèmes. C'est signé Françoise Lagneau et les dessins de Marcel Saul. C'est publié, que je ne dise pas de sottises, je ne sais pas, mais c'est pas grave, aux éditions... c'est marrant, c'est marqué en
Vous savez pas, on va retravailler tout ça, puis on le dira demain.
Eh ben oui, c'est pas faux.
C'est pas faux. Merci Alain Baraton et à demain.